I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission où on vous recommande trois trucs cool en 20 minutes. Je suis Patrick Béja et l'émission reprend pour la rentrée. Je suis très heureux de pouvoir vous retrouver et vous proposer quelques conseils, quelques recommandations de produits culturels de qualité. Enfin, je dis de qualité, j'espère, mais en même temps j'ai quelques doutes parce que l'un de nos co-animateurs est l'un des Comment puis-je qualifier cet individu ? L'un des turbulents membres de l'apéro du Capitaine, et j'irais même jusqu'à dire le fondateur de cette équipe.
Turbulent. Maintenant, on est vieux, on s'est calmé. 9 ans, t'imagines ?
Oui. Je ne sais pas pourquoi je te fais pas hyper confiance sur ce sur cette description.
Je ne suis pas le pire de l'équipe, rassure-toi.
C'est vrai. Bon, bah merci d'être avec nous, Siegfried, alias Captain Web.
Merci de m'avoir invité.
Très heureux de te recevoir à nouveau dans l'émission et j'ai le plaisir également de recevoir un petit nouveau pour cette session de Positron, à savoir Emmanuel, alias Kifix, qui est l'un des auteurs de la BD Les Geeks, en tout cas celui qui s'amuse à retweeter des trucs marrants sur Twitter, qui gère le compte Les Geeks également. Comment ça va Emmanuel ?
Très bien, ma foi, très bien. Écoute, comme je te disais, je suis en vacances, encore quelques jours. Ouais. Et c'est un plaisir de participer avec deux grands ténors du podcast français.
Ouh, tu es trop bon, Bon, bah, je suis heureux de te recevoir aussi. Ça fait longtemps qu'on essaye de te recevoir dans Positron. Et enfin, ça se fait. Donc, je suis très heureux et j'ai hâte de découvrir les produits culturels que tu vas nous recommander, toi aussi. Oui, vas-y, n'hésite pas à m'interrompre, hein, tu sais comment marche l'émission.
Pas de problème, j'allais juste te dire, j'espère que ça te décevra pas du coup.
Oui, bah on va voir, c'est surtout les auditeurs qu'il faut pas décevoir, et ils sont sévères, donc il faut être exigeant avec soi-même, on va essayer en tout cas. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je rappelle le principe de l'émission, c'est très simple, on a environ 5 minutes par personne, et une vingtaine de minutes dans l'épisode, pour vous recommander trois produits culturels, donc qu'il s'agisse d'un film, d'une série, d'un livre, d'une BD, de jeux vidéo, de musique, et donc pour vous recommander ça, pour essayer de vous le vendre en quelque sorte, pour vous intéresser, et de cette manière, si vous avez un positron qui vous reste dans votre liste de podcasts, vous savez que vous n'aurez aucun moyen de vous embêter ce week-end, ou à n'importe quel moment de la semaine même, puisque vous aurez toujours quelque chose de sympa à voir, regarder, lire, écouter, ou jouer. C'est en tout cas le but qu'on essaye de se fixer avec cette émission. Et je vais commencer, comme le veut la tradition, avec ma recommandation. Et on essaye d'être un petit peu, de commencer, vous savez, c'est la rentrée. Donc on essaye d'être un petit peu, voilà, sérieux, intellectuel. Je vais vous proposer un livre qui est assez connu, mais que j'ai eu le plaisir de lire cet été, sur la recommandation de ma femme, qui s'appelle « Sapiens, une brève histoire de l'humanité ». Qui est un livre de Yuval Noah Harari. Je ne sais pas si... Alors, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà lu. Emmanuel, Siegfried, vous savez de quoi il s'agit ?
Non, pas du tout. Écoute,
pas du tout.
Tu vas nous l'apprendre.
D'accord, bah très bien. Écoutez, voilà, je vais avoir le plaisir de vous le faire découvrir. C'est un livre, en fait, c'est pas de la fiction, hein, c'est un livre sociologico-historico-ethnologique. Et donc, Yuval Noah Harari est un professeur d'histoire, c'est un Israélien, et il a écrit un livre qui, comme son nom l'indique, est censé un petit peu résumer l'histoire de l'humanité. Alors, il part des origines. Quand il parle d'humanité, bah, c'est les sapiens, pas que les homo sapiens, mais vraiment toute l'espèce sapiens. Et il part du tout début, donc il commence de l'âge de pierre, quoi, et il va jusqu'à l'époque moderne. Et je pense que quand on décrit la chose comme ça, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, non, mais on connaît ce genre de truc, on a déjà vu, enfin c'est commun ce genre d'exercice historico-académique. » Et ils ont plus ou moins de succès dans leur entreprise. L'un des trucs qui vraiment fait sortir ce livre du lot, c'est le fait qu'il a un style d'écriture qui est passionnant, mais passionnant au sens où il raconte les choses de manière hyper illustrée, compréhensible. Et j'irais même jusqu'à dire, je disais, c'est pas un roman, c'est pas une fiction, mais c'est presque comme un roman. C'est pas qu'on suit des personnages spécifiques, mais par contre, il insuffle dans sa narration, j'hésite pas à dire narration, des éléments qui accrochent et qui rendent chaque période qu'il décrit, chaque point qu'il essaye de décrire, je dis point comme en anglais, je l'ai écouté en anglais d'ailleurs, chaque point qu'il essaye de faire passer comme une petite histoire avec des exemples hyper prenants, hyper clairs.
Et c'est présenté sous la forme de comme un roman ou c'est
Non, c'est pas présenté comme un roman. C'est vraiment, il prend chaque époque et il décrit ce qui a fait que l'évolution a fait passer d'une époque à l'autre, en quelque sorte. Ce qui s'est passé dans cette période de l'histoire de l'humanité qui fait que la modernité a continué à évoluer. Enfin, à partir du moment où on parle d'une certaine espèce, on n'a plus d'évolution physiologique, mais sociologiquement, ça continue à évoluer et ça continue à se moderniser. Et à chaque fois, il a plein d'exemples qui sont et de théories qui sont bien sûr sous-tendues par de la recherche. Hein, c'est un scientifique, mais qui sont hyper intéressantes. Je vais prendre un exemple. C'est par exemple la raison pour laquelle l'Homo sapiens a pris le dessus sur les autres espèces de l'époque, les autres sapiens en fait, ou les autres homo quelque chose. Et en fait, l'une des choses qu'il dit, c'est que le langage a été un facteur déterminant. Et il dit pas juste, oui, le langage c'est cool, il dit le langage a permis de créer des constructions intellectuelles qui a permis en fait aux humains, aux sapiens, de croire en des mythes. Et il a toute une série sur ce qu'il entend par mythe, et ce qu'il veut dire, c'est genre des choses qui sont comme je disais, des constructions intellectuelles qui a permis à ces groupes plus nombreux de se réunir et d'agir de manière coordonnée. Parce que sans le langage, il y a plein d'espèces qui ont différents types de langages. Il y a des espèces animales qui ont des langages, mais qui ont des langages simples, qui permettent de dire « attention, il y a du danger là-bas, là-bas il y a de la nourriture » et ce genre de choses. Mais le langage complexe de l'humanité a permis de donner des constructions donc intellectuelles comme l'idée d'un groupe, d'une tribu, plus loin d'une nation, d'une société, d'une entreprise, quoi. Et il démontre, alors parfois il pousse un petit peu le bouchon pour le principe, il pousse à l'extrême, mais il montre à quel point les constructions sociales sont en fait des mythes, c'est des choses qui n'existent pas vraiment. Il prend l'exemple de Renault, par exemple, qui est une société. Mais la société, c'est quoi? C'est les usines? Non, pas vraiment. C'est le board? Non, pas vraiment. C'est les employés? Même pas vraiment. C'est la marque? Non, même pas vraiment. C'est une idée, quoi. Et quand on remonte un petit peu plus loin dans l'histoire de l'humanité, le fait de pouvoir se fédérer autour de l'idée d'une tribu, d'une nation, d'un groupe, eh ben ça permet de prendre d'organiser des groupes beaucoup plus larges que des espèces qui sont uniquement fédérées autour de les gens qu'ils connaissent. Ils parlent de la possibilité de fédérer des gens parmi ses connaissances. Et on sait qu'on a la place, entre guillemets, pour un certain nombre d'amis, qui est de connaissances, qui est environ un groupe de 100-150 personnes. Au-delà de ça, on n'a plus vraiment les mêmes liens. Et l'un des trucs qui a permis le langage, c'est justement de créer des liens autour de mythes, donc d'un drapeau, d'un chef, d'une religion, de quoi que ce soit, beaucoup plus large que simplement une taille de groupe limitée aux gens qu'on connaît. Et ça, c'est le langage qui l'a permis. Donc c'est l'un des exemples qu'il prend, qui est hyper... alors évidemment, il le décrit beaucoup mieux que moi. Je suis sûr que j'ai fait des erreurs, que j'ai dit des choses un petit peu bêtes, mais il le décrit beaucoup mieux que moi. Et toute l'histoire de l'humanité qu'il décrit est parsemée de ce type d'exemples et d'explications simples de pourquoi les choses ont fonctionné dans notre histoire à nous et peut-être ont moins bien fonctionné ailleurs. Donc c'est vraiment un truc qui est passionnant, ça se lit presque d'une traite, c'est un petit peu long, ça fait 500 pages, mais ça se lit presque d'une traite et je trouve que c'est une manière de présenter l'histoire et la recherche scientifique qui est précieuse parce que ça nous amène, même si on n'est pas spécialement si on n'a pas spécialement un esprit scientifique, à s'y intéresser. Donc voilà, d'accord. Je rappelle le nom. Oui, pardon.
Non, rien, je voulais juste demander, ça va jusqu'où en fait l'histoire ? Il arrive jusqu'au temps moderne, jusqu'à notre...
Ça va jusqu'à l'époque moderne et ça va même un petit peu plus loin. Je sais qu'il y a même une suite en fait, il y a un autre livre qui a été publié qui va sur essayer d'imaginer le futur, mais il y a même un chapitre à la fin de Sapiens qui parle de ce que pourrait devenir l'humanité et ce qui pourrait définir l'humanité. Il parle de cyborgs, de robots, d'intelligence artificielle. Bon, c'est un chapitre rapide, mais il va vraiment jusqu'au bout du truc, quoi.
Avec le même raisonnement qu'il a utilisé pour le passé, il se projette
un petit peu, oui. Ouais, un petit peu. Alors, encore une fois, c'est juste un chapitre, donc c'est quand même résumé. Mais oui, il essaye d'avoir les mêmes types de réflexions qui te font de poser des questions. Il parle aussi de système politique, de religion. Quand je dis de système politique, pour répondre un petit peu à cette question de jusqu'où il va, il parle de capitalisme, de communisme, de toutes ces tendances politiques avec des orientations hyper surprenante. C'est pas du tout un tel est bien ou un tel est pas bien. C'est vraiment, il explique pourquoi un tel fonctionne, là où sont les limites, pourquoi ça fonctionne bien pour ça, pourquoi ça fonctionne pas bien pour ça. Il a des critiques assez intéressantes sur l'industrialisation, sur même les révolutions agricoles. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la révolution agricole était positive pour l'humanité. Alors oui, dans certains aspects, mais dans d'autres aspects, on est passé d'une culture chasseur-cueilleur où on devait chasser et cueillir 4, 5, 6 heures par jour pour survivre à une culture où on doit tous les matins se lever à l'aube et puis se coucher presque au coucher du soleil pour produire notre bouffe. Et c'est graduel, donc on s'en rend pas compte. Et bien sûr, si on te demande à ce moment-là, quand tu as déjà passé le pas, est-ce que tu veux redevenir chasseur-cueilleur ? Tu dis, non, bien sûr que non, j'ai tel et tel confort. Enfin, bref, il y a plein de réflexions sur la manière dont les choses ont évolué qui sont hyper aptes. Et surtout, c'est une manière d'envisager les choses qu'on n'a pas généralement. Et c'est ça qui est précieux. Alors, encore une fois, il exagère souvent et il y a des choses où il faut se dire, une fois qu'on a passé... C'est un petit peu l'effet Steve Jobs de Reality Distortion Field. Et tu dis, mon Dieu, c'est incroyable, machin. Et puis, tu redescends et tu dis, OK, il y a des choses à prendre et puis des choses où il faut mettre un petit peu d'eau dans son vin. Mais c'est quand même une manière d'appréhender les problèmes qui est tellement différente que ça éclaire intellectuellement notre perception des choses, quoi.
A le mérite de faire réfléchir.
Exactement, exactement. Ouais. Même si on n'est pas d'accord, quand même, tu vois les choses un petit peu d'une manière... tu les attaques d'un autre angle, quoi. Donc, j'espère que mon enthousiasme a été perçu. Et j'espère que certains d'entre vous...
c'est convaincant, ça donne envie de le lire, comme d'habitude.
Très bien. Donc, j'ai fait mon boulot. Et maintenant, Siegfried, à ton tour.
Oui,
essayer de nous convaincre d'aller essayer ta recommandation.
Voilà, d'accord. Parce que bon, c'est ce que on va s'éloigner de ta première recommandation qui était très intellectuelle et qui est super intéressante pour partir dans un truc complètement débile parce que c'est un peu ma spécialité. Et donc aujourd'hui, moi, ce que je vais vous recommander, c'est une série qui existe depuis 2-3 ans. Je crois que ça a commencé en 2015, peut-être 2016. C'est Rick et Morty. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà regardé.
Ouais.
Alors vas-y, dis-nous ce que tu penses, parce que j'ai entendu un ouais, pas hyper convaincu, Emmanuel.
Écoute, moi qui aime beaucoup l'humour noir, qui aime quand ça va un peu trop loin, et ben Rick et Morty, c'est une série que j'aime beaucoup, que j'ai découverte il y a pas très longtemps, pas dans la meilleure des conditions, parce que j'étais dans l'avion en venant de Hong Kong, et donc sur un écran de 5 pouces avec des gens en train de crier à côté ou de dormir sur moi, mais j'ai trouvé ça très sympathique. Alors c'est quoi? C'est l'histoire d'un scientifique complètement alcoolique et complètement barré qui embarque son petit fils qui s'appelle Rick, donc, dans des histoires incroyables à travers l'univers et même dans d'autres dimensions. Alors, c'est clairement inspiré, en tout cas au départ, de Doc et Marty de Retour vers le futur, pour donner un peu une idée. C'est une série donc SF qui est diffusée, alors qui était aux États-Unis sur Cartoon Network en fin de soirée, parce que c'est clairement un contenu pour adultes, hein, c'est pas... C'est pas quelque chose que vous allez montrer à votre gosse de 8 ans. Et actuellement, il y a 2 saisons complètes. Alors, tu les retrouves, je crois, sur iTunes, où tu peux les acheter. Et c'est diffusé en ce moment sur Netflix en France. Donc, normalement, pas mal de monde peut les regarder. Ouais, c'est accessible. Et il y a la 3e saison en cours de diffusion aux États-Unis. Il y a quelques épisodes qui traînent dans des endroits peu recommandables du net. Si vraiment vous tenez, allez voir. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que moi j'aime ça? Je vais te le dire. Tout simplement parce que déjà, bon, c'est une série qui est pleine d'humour. D'humour très, très, très noir, très, plein de cynisme et tout. C'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Mais la dernière fois que j'avais vu une série SF comme ça, animée, qui était un peu dans le même style, je pense que ça devait être Futurama. Et depuis, alors après, je ne suis pas un grand spécialiste des séries animées, mais je me souviens pas d'avoir eu quelque chose qui ressemblait à ça. Peut-être Gravity Falls, je crois, dont vous avez parlé il n'y a pas très longtemps. Mmh. Il y a quelques numéros, non? Et encore, c'était encore un style un peu différent. Alors, effectivement, c'est des thèmes qui sont hardcore, parfois très très limites. Bon, voilà. Après, si vous n'avez pas de soucis dans le fait de voir en dessin des gosses de 12 ans qui doivent s'enfiler des trucs dans le fion pour passer des douanes intergalactiques, ça ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Et voilà. Après, effectivement, faut aimer le style et l'humour noir parce que c'est quand même bien particulier. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous l'avez vu.
En fait, moi, j'ai un petit peu une question parce que j'ai regardé. Soyons clairs, on en parle énormément sur l'internet du cybernaute depuis quelques temps. Et du coup, j'ai regardé un petit peu. J'ai regardé le premier épisode. Et je t'avoue que j'ai été quand même, quand tu dis de l'humour noir, moi je dirais c'est carrément, c'est peut-être noir, mais c'est aussi un peu Craddock, quoi.
Et oui, c'est du, oui, effectivement, il y a aussi, il y a du premier degré.
C'est ça. Et j'ai vu moi le premier épisode, c'est Morty, donc le vieux, il passe son temps à dégueuler, quoi. Et genre à rôter, à dégueuler, et c'est genre. Je sais pas, moi ça m'a, j'ai pas trouvé ça hyper drôle déjà, mais peut-être que c'est ça s'arrange avec les épisodes.
J'ai l'impression que c'est le genre de truc.
J'ai juste regardé le pilote, juste le pilote. Et du coup, c'est pour ça que je voulais te poser la question. Est-ce que si on n'a pas aimé le pilote, on peut continuer à regarder parce que c'est un petit peu différent? Ou est-ce que c'est même pas la peine parce que le pilote
non,
c'est...
Non, il y a plein. En fait, chaque... déjà, il y a énormément de références à la culture pop, donc des films, des beaucoup de en rapport avec de la SF. Mmh. Et le premier épisode, comment dire?
Non, il y a... Je veux dire dans le style, quoi.
Dans le style, on reste dans l'idée d'un truc... effectivement, il y a de la blague grasse assez souvent, je ne te le cache pas. Mais il y a aussi des trucs de voyage dans les dimensions ou de voyage intergalactique sur le truc qui sont assez évolués. Alors, bon, ça ne vole pas très très haut la plupart du temps, mais en tout cas, ça cesse de regarder sans que ce soit sans arrêt des blagues de Rick en train de vomir partout et d'être bourré ou d'être drogué.
D'accord. Ouais, t'as regardé toi, Emmanuel?
J'en ai vu 3 ou 4 et j'avoue que j'ai pas accroché, je suis pas allé plus loin. C'est effectivement pas mal trash.
Ah oui, c'est très très trash, c'est revendiqué tel quel de toute façon.
Ouais. Mm. Le problème c'est que pour moi l'humour marchait pas trop, quoi. Ça m'a un peu fait sourire, mais voilà. pas beaucoup.
Bah écoute,
plus,
moi, je sais pas si c'est parce que j'étais dans l'avion et que j'étais désespéré de devoir encore passer 7 heures dans un avion, mais ça m'a assez plu pour que je me mate la deuxième saison sur Netflix et que j'ai commencé à regarder un peu la troisième. Tous les épisodes se valent pas, mais bon, c'est souvent le cas dans les séries animées ou dans les séries tout court. Mais en tout cas, il y a des bonnes idées, je trouve. Et puis surtout, c'est tellement rare de voir des séries comme ça revendiquer SF, même si effectivement il y a ce côté trashos qui fait intégralement partie de la série, que bon voilà, écoute, moi j'ai pas renié mon plaisir,
je pense que t'es pas le seul, je dirais même que Emmanuel et moi sommes peut-être dans la minorité. Donc bon,
ouais, il y a beaucoup de fans. Tester, hein. Quoi.
Ouais, il y a beaucoup de fans. Je me dis que, enfin, j'ai l'impression et certains me l'ont confirmé aussi que il faut apprécier ce genre d'humour. Et
oui, voilà,
si
c'est
jamais,
c'est un peu régressif, quoi. C'est voilà, tu reviens en arrière, tu t'amuses, tu rigoles des fois à des blagues pipi caca. C'est vrai, c'est vrai. C'est aussi mon petit plaisir à moi.
Le truc, c'est que le pipi caca me dégénère. Enfin, si, quand même. J'allais dire, ça me dérange pas forcément, mais je crois que c'est pas mon truc, quoi. Mais
Mais ça peut comprendre. Hein. C'est pas forcément quelque chose qui est pour tous. Faut aimer ce côté un peu régressif. Et puis surtout, faut pas être choqué par certaines histoires qui, effectivement, si tu les prends au premier degré, si tu veux, ça peut être un peu hardcore. Quand tu imagines c'est un gosse de 12 ans qui est embarqué dans ces aventures-là et tout. D'ailleurs, même tu peux te demander comment ça peut passer sur Cartoon Network, parce que pour le coup c'est très adulte dans les sur certains côtés, effectivement, assez hardcore.
J'ai l'impression que c'est beaucoup basé sur, effectivement, tu parlais de références, ça parle aux gens qui sont fans du genre parce que il y a plein de références à tous ces trucs là et moi c'est un truc que j'aimerais bien apprécier, quoi, mais
Et puis c'est complètement barré, quoi. Tu te raccroches pas si tu veux à des trucs scientifiques. C'est de la SF, mais de la SF vraiment totalement qui part totalement dans tous les sens. C'est aussi ce qui est assez drôle.
Et au final, ce qui m'a le plus plu, effectivement, contrairement à ce que j'attendais, c'est pas l'humour, mais c'est le côté plus déjanté et science-fiction qui va vraiment vers le tout et le n'importe quoi. Au final, le côté aventure m'a plus intéressé que le côté humour.
Essaye, écoute, il y a des, je sais pas, jusqu'où t'es arrivé au troisième épisode, c'est ça?
Au cas,
Ouais, parce qu'après t'as des histoires de voyage dans les dimensions, donc je sais pas si t'es peut-être arrivé là, où il y a plusieurs versions d'eux-mêmes, si tu veux.
Je crois,
Voilà, ça va très loin, quoi, ça va très très loin.
Ouais. Bon, écoute, peut-être que je réessayerai un jour, on verra.
Peut-être. C'est pas très long, ça dure 20 minutes, je crois, par épisode, il y a une dizaine d'épisodes dans chaque saison de mémoire, 10, 11.
Ah oui, donc, c'est pas des saisons de 24, c'est...
Ah oui, non, du tout, non, ça se regarde assez vite. Hein. C'est pas genre, je sais pas, pour la troisième saison, en tout cas, les deux premières de mémoire, ça doit être 11-12 épisodes par saison.
D'accord. Bon, bah peut-être à tester, alors, ou à retester. Voilà. Emmanuel, de quoi nous parles-tu ?
Alors, moi, je vais vous parler de comics, en particulier de Powers, donc qui est vraiment un de mes comics favoris. C'est une série qui a commencé publiée chez Image en 2000, puis qui est passée chez Marvel Icon, qui est leur espèce de sous-boîte pour les auteurs qui veulent garder les droits sur leur production. En France, malheureusement, c'est plus publié. Donc, si vous voulez les lire, il y a eu 7 ou 8 tomes, sont sortis, donc vous pouvez les trouver d'occasion, vous pouvez les trouver sur Comixology, ils y sont, et par contre
c'est
ça ne va pas plus loin.
Pour ceux qui ne savent pas, c'est une app qui permet de télécharger les
vidéos. Oui, un site et une app Comixology, voilà. Mais donc il y a 17 ou 18 tomes à l'heure actuelle, et si vous voulez tous les lire, si jamais vous accrochez beaucoup, il faudra les lire en anglais. Donc c'est écrit par Brian Michael Bendis, qui est un gars référence. Qui est maintenant, voilà, très connu chez Marvel, qui fait beaucoup de choses, et dessiné par Michael Evan Oeming, qui est lui moins connu, mais qui a fait quand même beaucoup de boulot, aussi bien en auteur qu'en dessinateur. Pour vous donner une idée de son style graphique, c'est un gars qui idolâtre Mike Mignola, donc il a un style qui va un petit peu dans son genre, avec beaucoup d'aplats de noir et de couleurs. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, déjà, c'est une BD
sans
qui est vraiment...
Oui, qu'est-ce que c'est que l'histoire?
Ouais, c'est une BD qui a vraiment été reconnue, qui a gagné des Eisner Awards quand elle est sortie. Et c'est un mélange de polar noir et du style super-héroïque. Donc, imaginez un univers à la Marvel avec beaucoup de super-héros. Mais on va pas s'occuper directement des super-héros. On va suivre deux flics comme on le voit souvent dans les séries télé, qui vont s'occuper de crimes liés à des pouvoirs. C'est-à-dire qu'ils sont à la section criminelle dès que ça concerne des super-héros. Du coup, on va suivre ces deux flics. Il y en a un, Christian Walker, qui est un ancien super-héros, un grand gars costaud qui faisait partie, imaginez, le groupe l'équivalent des Avengers, vraiment un grand groupe connu, et il a perdu ses pouvoirs, et il est devenu flic. Mais a-t-il vraiment perdu ses pouvoirs? Les a-t-il complètement perdus? Ah ah, mystère. Et donc, on va avoir un mécanisme qu'on a souvent aussi dans les cop shows, dans les films, c'est que ce gars-là préfère travailler seul, évidemment. Et il y a la petite nouvelle qui débarque et qui s'appelle Dina Pilgrim, qui est une flic super motivée, super enthousiaste, qui veut bosser avec lui, qui veut bosser sur les crimes et les super-héros. Et donc, leur relation va être un des points très importants sur toute la durée de la série, sans amourette intéressante, mais vraiment une relation qui va être passionnante. Et donc, ils vont enquêter. Donc, pour vous donner une idée, le premier tome, il s'agit du meurtre de Retro Girl, qui est, disons, une Wonder Woman, l'héroïne la plus populaire, la plus connue, la plus respectée, et qui a été assassinée. Donc, ils vont enquêter là-dessus. Donc, ce comics, il est vraiment, comme je le disais, noir. C'est un comics pour adultes, je ne l'ai pas dit. Vraiment, il y a de la violence, il peut y avoir du cul, il y a toutes sortes d'insultes. C'est vraiment pas pour les enfants. Et c'est aussi, ça prend beaucoup en compte les médias. Toutes leurs enquêtes vont être influencées par les médias, notamment une émission télé sur les pouvoirs. Avec un gars qui reçoit toujours des gens pour parler des pouvoirs, pour parler de ce qui se passe en ce moment et donc de leurs enquêtes généralement, et qui a des contacts, etc. Donc les médias, aussi bien la télé que plus tard Internet, des magazines, Twitter, tout ce que vous voulez, ça a une importance à chaque fois dans ces enquêtes. Et donc on va avoir des enquêtes souvent violentes. Parfois, comment dire, il peut y avoir le genre de choses qu'on ne verrait pas en général dans les comics Marvel ou DC. Mmh. Des embrouilles de pognon entre les super-héros parce que leurs groupes ont un marketing qui leur permet de vivre. Voilà, des histoires de cul, évidemment. Enfin, tout ce que vous pouvez imaginer qu'on ne voit pas traiter dans les plus grands comics en général de super-héros, les plus mainstream, vous allez les retrouver là-dedans. D'accord. Donc c'est vraiment une autre facette du super-héros et qui est vue par le prisme du travail des policiers, quoi. Voilà, donc comme je disais, il y a 18 tomes maintenant, je crois. C'est vraiment une grosse série. Et quand on ne peut pas s'en rendre compte au tout début, mais il y a une ampleur énorme sur l'univers, le nombre de héros, le côté politique, les luttes qu'il peut y avoir entre la police, la section pouvoir du FBI, enfin plein de choses qui sont vraiment super intéressantes. Il y a beaucoup d'humour aussi, pas mal d'humour noir, mais beaucoup d'humour et beaucoup de dialogues. Si vous ne connaissez pas Brian Michael Bendis, c'est un mec qui adore écrire des dialogues, donc il y a des pages avec beaucoup de dialogues, il faut aimer ça aussi.
D'accord.
Voilà, mais c'est vraiment, je trouve, un grand comics
Alors,
qui continue toujours.
Du coup, j'ai deux questions. Première, est-ce que c'est un truc où c'est hyper intéressant quand tu es déjà fan de super-héros parce que ça prend les codes du comics de super-héros et ça joue dessus? Et du coup, si tu les connais pas, c'est un petit peu moins prenant. Et la deuxième question, c'est, je sais qu'il y a une série qui a été produite, je crois, par Sony pour PlayStation.
Ah oui,
et
mon
est-ce
Dieu.
Qu'elle est bien ou pas? D'accord.
Bon, alors, je crois que parlons tout de suite de ça. Okay. Cette série est une catastrophe absolue.
D'accord.
Bon. Ça fait partie de ces trucs, quand on les voit arriver, on se dit, waouh, on est super fan d'un truc, ça va être adapté, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et là, le projet est passé par plusieurs chaînes avant d'arriver chez Sony. CFX, je crois qu'il a développé avec un autre casting. Qui a choisi de pas la produire finalement. C'est passé chez Sony, le casting a changé, ils ont changé beaucoup de trucs comparé aux comics, ce qui n'est pas le problème, mais vraiment c'est raté, quoi. Pourtant il y a des bons acteurs, mais tout est raté. Moi je me suis forcé vraiment pour voir la première saison, La 2, ils annonçaient des nouveaux trucs, encore des acteurs, etc. Et je me suis dit, allez, tu réessayes. Et puis, j'ai dû voir 3 épisodes et j'ai arrêté. J'ai dit, non, c'est vraiment pas possible. Alors, après, ta première question, évidemment, plus on connaît les univers de super-héros, plus on y retrouve peut-être un peu des petites choses qu'un lecteur qui a vraiment jamais lu de super-héros pourrait voir. Mais franchement, je pense pas que ce soit nécessaire, quoi. Je pense pas qu'on ait besoin. Si vous aimez le côté policier aussi, ça peut suffire vraiment à vous accrocher, tout en ayant l'aspect vraiment original du fait que ce soit des enquêtes liées au pouvoir avec des trucs vraiment bizarres, quoi.
D'accord. Ok, très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Oui, pardon, Siegfried.
Non, rien. Je disais, c'est cool. Ça donne la même chose.
Ça donne envie. Ok, et alors j'ai oublié de préciser, normalement on dit si notre recommandation est plutôt pour les fans des trucs du genre ou si c'est vraiment pour tout le monde. C'est la comment dire
marque de fabrique de Positron.
Ouais, c'est ça, la marque de fabrique de Positron. C'est est-ce que c'est assez bien pour plaire aux gens qui aiment bien ce genre de trucs généralement, ou est-ce que vraiment ça transcende le genre et c'est vraiment recommandable à tout le monde. Alors moi, pour mon livre Sapiens, je dirais que c'est vraiment pour tout le monde. C'est un truc que tout le monde peut apprécier. Rick et Morty, Siegfried, tu disais, c'est plutôt pour les fans, quoi.
Oui, ça sera plutôt, enfin, à mon avis, pour les fans de SF et surtout pour les personnes qui n'ont pas peur, voilà, de taper un peu dans le premier degré, l'humour noir et de voir des choses un peu trashos.
Très bien. C'est ça, c'est l'humour trashos un peu. Et donc, Powers, c'est plutôt pour les fans aussi, c'est ça ?
Powers, je dirais que c'est plutôt pour les fans et puis pour un public averti, notamment adulte, quoi.
Oui, ah d'accord, il y a aussi cet aspect, c'est un peu limite pour les enfants, quoi. Enfin, c'est clairement limite.
Non, vraiment pas pour la.
D'accord. Ok, bon, au moins c'est clair. Très bien. Eh ben, merci à tous les deux. C'est donc déjà notre troisième recommandation et donc la fin de l'épisode. Je rappelle encore une fois les noms de ceux qu'on a recommandés. Sapiens, une brève histoire de l'humanité, un livre pour tout le monde. Rick et Morty, une série animée plutôt pour les fans. Et Powers, un comic effectivement pour les fans également. Voilà, donc est-ce que je pourrais vous proposer à tous les deux de nous dire où on peut vous retrouver sur l'internet, peut-être en commençant par le turbulent Captain Web.
Oui, bien sûr. Alors donc sur Pornhub, sur Twitter / Captain Web, vous pouvez me retrouver régulièrement. Sur Facebook aussi, puis bien sûr sur le podcast, alors sur votre appli préféré ou sur iTunes, voilà.
Très bien.
Ce sera pas très dur de me trouver.
Ça sera pas très difficile, effectivement, et on aura aussi le compte Twitter dans les notes de l'émission, comme toujours. Emmanuel.
Bien sûr, Twitter, @lesgeek, tout simplement.
Très simplement, effectivement. Donc, @lesgeek pour le compte Twitter, et bien sûr, si vous aimez les trucs de geek, la BD est également faite pour vous, les geeks. Pour ma part, c'est @NotPatrick sur Twitter et sur Facebook. Je suis également sur le site frenchspin.fr où j'héberge toutes les émissions que je produis. frenchspin.fr pour les émissions en français et frenchspin.com, j'ai hésité un instant, pour les émissions en anglais. Et vous pouvez également aller sur iTunes si l'envie vous prend pour laisser un petit commentaire et une petite review et des petites notes. Pour Positron notamment, ça nous ferait bien sûr extrêmement plaisir. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous.
Bye bye. À bientôt. We'll be right back.
Oui, tu nous disais quoi, Emmanuel ?
Oui, je vous demandais si vous avez entendu passer l'avion qui est à côté de chez moi, parce que j'habite à côté de la base aérienne et il y a malheureusement de nombreux avions. Et encore aujourd'hui, il n'y a pas la patrouille de France qui s'entraîne, donc ça va.
Donc
calme.
On a de la chance, en fait. Bon, écoute, la prochaine fois, tu leur feras coucou de la fenêtre de notre part.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.